VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition de 18h30 temps universel du mercredi 17 octobre 2018. Abdourahmane Dia à la présentation, voici les titres. En Côte d'Ivoire, les étudiants vont pouvoir reprendre les cours. Les professeurs ont mis fin à leur grève. Le président équato-guinéen Théodore Obiang-Nguema dément la torture et l'emprisonnement d'opposants dans son pays. Le secrétaire général de l'ONU appelle au calme après les violences politiques aux Comores. Le président américain Donald Trump a nié chercher à couvrir l'Arabie Saoudite dans la disparition du journaliste Jamal Khashoggi. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Bienvenue à tous. En Côte d'Ivoire, les professeurs de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan en grève depuis plus d'un mois pour le non-paiement d'heures supplémentaires ont mis fin à leur mouvement après une ouverture du dialogue. Nani Talani, Le Point.
Dans un communiqué, la Coordination nationale des enseignants et chercheurs de Côte d'Ivoire, le syndicat à l'origine de la grève, souligne qu'un accord a été conclu pour la levée du mot d'ordre. Le professeur Abou Karamoko, président de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, affirme avoir réglé le problème et payé la totalité des sommes dues, ce que conteste la coordination, qui pointe du doigt le mode de calcul des heures supplémentaires et réclame le paiement intégral des sommes dues. Le professeur Karamoko déplore la mise en péril de l'année académique en cours. Depuis que dure cette grève, ce sont 4 semaines de cours qui se trouvent ainsi perdues. Les professeurs s'étaient mis en grève illimitée le 5 septembre, mettant totalement à l'arrêt l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan.
Voilà, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, effectue une visite en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'à vendredi. Sa visite est axée sur la sécurité et l'éducation. À Abidjan, il rencontrera ce soir le président ivoirien Alassane Ouattara avant d'assister jeudi à une présentation du projet d'Académie internationale contre le terrorisme qui doit voir le jour en 2019. Vendredi à Ouagadougou, Jean-Yves Le Drian discutera sécurité et développement avec le président burkinabé Roch Marc-Christian Kabore. Au Bénin, l'homme d'affaires et opposant Sébastien Ajavon ne se rendra pas demain à son procès dans lequel il est mis en cause pour trafic de cocaïne. Son avocat dénonce de graves irrégularités dans la procédure. Il y a 2 ans, Ajavon avait été arrêté après la découverte d'environ 18 kg de cocaïne pure d'une valeur estimée à 9 milliards de francs CFA dans un conteneur destiné à l'une de ses sociétés. Il avait été relaxé quelques mois plus tard, faute de preuves et au bénéfice du doute. Mais l'homme d'affaires a de nouveau été convoqué le 4 octobre devant un tribunal spécial créé au mois d'août. Le président de Guinée équatoriale, Théodore Obiang-Nguema, a démenti toute torture ou arrestation d'opposants dans son pays. Dans une interview à la télévision publique espagnole, le président Obiang-Nguema a indiqué que ce sont des spéculations. « Nous n'avons pas besoin de torturer qui que ce soit », a-t-il ajouté. Le régime du président Obiang-Nguema, doyen mondial des chefs d'État au pouvoir depuis 1979, est régulièrement accusé d'atteinte aux droits de l'homme par ses opposants et des organisations internationales. Il avait décrété le 4 juillet une amnistie totale en faveur de tous les prisonniers politiques et de tous les opposants condamnés ou interdits d'activité. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle au calme et au dialogue aux Comores. La commission de l'Union africaine a aussi appelé à la plus grande retenue. C'est au lendemain de violents affrontements entre l'armée et des opposants. Le point avec Morgane Guériac.
Dans un communiqué, Antonio Guterres exprime sa préoccupation face à la tension sur l'île d'Anjouan. Il appelle au calme dans l'intérêt de la paix et de la stabilité des Comores. Il a exhorté tous les acteurs politiques à reprendre le dialogue entamé sous la facilitation de Ramtane Namamra, représentant de l'Union africaine. De son côté, la Commission de l'Union africaine appelle toutes les parties à faire preuve de plus grande retenue et déplore la suspension du dialogue depuis le 2 octobre. Lundi, des protestataires ont érigé des barricades à Moutsamoudou, la capitale de l'île d'Anjouan, considérée comme un fief de l'opposition. Des affrontements à l'arme automatique ont fait au moins un mort et plusieurs blessés. Le climat politique s'est dégradé depuis le référendum du 30 juillet qui a renforcé les pouvoirs du président Azali Assoumani, l'autorisant à faire deux mandats successifs au lieu d'un. Les opposants boycottaient ce scrutin, qualifiant son régime de république bananière.
En Tanzanie, au moins 6 élèves ont été tués par la foudre et une vingtaine blessés lorsque leur école a été frappée ce matin. Sur les médias sociaux, sur les réseaux sociaux tanzaniens, on peut voir de nombreux parents accourus à l'hôpital voisin de l'hôpital pour prendre des nouvelles de leurs enfants évacués vers cet établissement sanitaire. La foudre a frappé alors qu'il pleuvait depuis très tôt le matin dans cette région montagneuse du nord de la Tanzanie.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo est allé à Ankara en provenance d'Arabie Saoudite pour des entretiens avec les responsables turcs sur la disparition du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Mike Pompeo s'est entretenu avec le président Recep Tayyip Erdogan. Le secrétaire d'État a aussi rencontré son homologue turc Mevlut Cavusoglu. Il est arrivé à Ankara au moment où la presse pro-gouvernementale a publié de nouvelles révélations accablantes pour Riyad. Elle parle de tortures et d'assassinat de Jamal Khashoggi par des agents saoudiens dans le consulat de son pays le 2 octobre. Malgré des indices impliquant l'Arabie saoudite dans la disparition du journaliste, Washington accorde le bénéfice du doute à son allié et évoquant la volonté des autorités saoudiennes de mener leur propre enquête, même si le prince Mohamed Ben Salman est indexé dans cette affaire. Ce mercredi, le président Donald Trump a affirmé que les États-Unis ont besoin de l'Arabie saoudite dans la lutte contre le terrorisme. Lors de sa visite à Riyad en mai 2017, M. Trump a annoncé des contrats d'armement d'un montant record de 110 milliards de dollars, dont une grande part ne s'est pas encore concrétisée.
Le président américain Donald Trump a par ailleurs nié chercher à couvrir ses alliés saoudiens dans l'affaire de la disparition du journaliste Jamal Khashoggi. Je veux juste savoir ce qui se passe, a dit Donald Trump à des journalistes à la Maison-Blanche. Le président américain a aussi déclaré s'attendre à ce que la vérité sur la disparition à l'intérieur du consulat d'Arabie saoudite à Istanbul de ce journaliste soit connue d'ici la fin de la semaine. L'ancien vice-président américain Joe Biden a reconnu que les questions sur son âge étaient légitimes s'il devait se présenter à la présidentielle de 2020. Tous les électeurs ont le droit de connaître précisément votre état de santé, a indiqué l'ancien sénateur et vice-président sous Barack Obama. Il n'a pas encore annoncé sa décision pour la prochaine échéance présidentielle prévue en 2020, mais son nom est régulièrement cité dans la course à la nomination démocrate. De son côté, le président américain Donald Trump, 72 ans, s'est dit hier certain à 100% de briguer un deuxième mandat. Toujours aux États-Unis, un policier a été arrêté dans le Maryland pour avoir agressé sexuellement une immigrante clandestine lors d'un contrôle de routine. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 10 au 11 octobre, selon un communiqué de la police rendu public aujourd'hui. Le policier a été suspendu et placé en détention provisoire après que la victime a déposé plainte. Le Canada est devenu ce mercredi le premier pays du G20 à légaliser le cannabis récréatif. Cette réforme historique est saluée par de longues files d'attente de consommateurs levés aux aurores pour être parmi les premiers servis. Le point avec Irénée Herman-Numbo.
Les tout premiers clients ont acheté leur premier gramme de marijuana à Saint-Jean-de-Terre-Neuve dans l'est du Canada. De Québec à Toronto, certains clients ont fait la queue toute la nuit devant les boutiques. Le gouvernement a voulu permettre à chaque province d'organiser ce commerce de l'herbe. Chaque région a sa propre recette dans ce marché évalué à environ 4 milliards d'euros par an. Selon les statistiques officielles, 16% de la population canadienne a fumé du cannabis en 2017, ce qui représente 773 tonnes de drogue douce. France. Les 120 producteurs autorisés ne seront pas en mesure dans l'immédiat de satisfaire tout le monde. 3 ans après son élection, le gouvernement libéral de Justin Trudeau réalise l'une de ses promesses symboliques de campagne. Le Canada devient le 2e pays de la planète à autoriser le marijuana récréative après l'Uruguay en 2013. Aux États-Unis, la consommation de cannabis est légalisée dans 8 États. Au début de l'année, la Californie est devenue le plus gros marché légal de cannabis au monde.
Une étudiante américaine interdite d'entrer en Israël s'est présentée ce mercredi devant la Cour suprême à Jérusalem qui étudie son appel contre cette mesure. Au terme de l'audience, les 3 juges ont ajourné leur décision sans préciser à quel moment ils trancheraient. Il s'agit d'un des cas les plus médiatisés de refus d'accès au territoire israélien en vertu d'une loi controversée adoptée en 2017, celle qui permet d'interdire l'entrée aux partisans du mouvement BDS appelant au boycott économique, culturel et scientifique d'Israël pour protester contre l'occupation des territoires palestiniens. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et c'est Nanit Talani qui nous présente la Minute Éco.
La République démocratique du Congo a annoncé la signature d'un accord de développement exclusif pour financer son projet de méga barrage hydroélectrique Grand Inga sur le fleuve Congo d'une capacité de 11 000 MW. 2 entreprises chinoises et espagnoles vont financer des études d'exécution à l'issue desquelles le consortium unique devra soumettre les contours définitifs du projet de centrale. Le coût est estimé à 14 milliards de dollars et la construction devrait durer entre 5 et 11 ans. Nouvelle stratégie pour l'intégration régionale de l'Afrique de l'Est entre 2018 et 2022. La feuille de route vise à accélérer l'intégration régionale et le développement des infrastructures. Ce plan estimé à 3,3 milliards de dollars facilite les opérations régionales de la Banque africaine de développement dans 13 pays de la sous-région, à savoir le Burundi, les Comores, le Djibouti, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Kenya, le Rwanda, les Seychelles, la Somalie, le Soudan du Sud, la Tanzanie et l'Ouganda. Terminons avec l'administration Trump qui entend négocier des accords de libre-échange séparés avec le Japon, l'Union européenne et le Royaume-Uni. Washington déplore le déficit commercial avec ses partenaires. Le représentant au commerce publiera les objectifs de ces négociations au moins 30 jours avant le début formel des tractations, mais il ne précise pas si ces pays ont donné leur accord de principe pour discuter.
À présent, la page des sports avec Nicolas Pinot. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Thierry Henry de retour à Monaco.
La conférence de presse d'intronisation a eu lieu ce mercredi. Thierry Henry est donc le nouvel entraîneur du club de la Principauté, actuellement 18e de la Ligue 1. Quand j'ai reçu l'offre de Monaco, c'était le choix du cœur, a précisé Thierry Henry. Monaco s'est présenté comme une évidence pour moi. Le nom de l'ex-joueur emblématique d'Arsenal avait déjà été cité les mois précédents du côté de Bordeaux ou encore d'Aston Villa. On rappelle que Thierry Henry, c'est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec 51 buts en 123 sélections. Formé à Monaco, l'ancien joueur de 41 ans va connaître sa première expérience en tant qu'entraîneur principal d'un club. Il avait été pendant 2 ans l'adjoint de Roberto Martinez à la tête de la sélection nationale de la Belgique.
Retour sur la Ligue des Nations en Europe.
L'équipe de France a renversé l'Allemagne hier soir grâce à un doublé d'Antoine Griezmann. Les Bleus s'envolent en tête de leur groupe de Ligue des Nations. L'Ukraine a continué son sans-faute en dominant la République tchèque 1-0. Sans Gareth Bale, le Pays de Galles a tout de même réussi à s'imposer en Irlande 1-0. Et puis en amical, la Belgique a concédé le match nul 1-0 face aux Pays-Bas.
Neymar qui fait mieux que Pelé.
Titulaire et passeur décisif hier soir lors de la victoire du Brésil contre l'Argentine 1-0. Neymar a surtout dépassé le roi Pelé au nombre de cette sélection cette semaine. 94, Pelé n'en comptait que 92. Bon, Neymar est encore loin du recordman brésilien des sélections, Cafu, 142 sélections entre 1990 et 2006.
Le Barça à la rubrique justice.
L'ancien président du FC Barcelone, Sandro Rosell, va être jugé pour blanchiment d'argent lié en particulier à la vente des droits télévisés de matchs de l'équipe du Brésil. Hormis Rosell, à l'encontre duquel le parquet réclame une peine de 11 ans de prison, une amende de 59 millions d'euros, son épouse, son avocat et trois autres personnes sont jugées dans cette affaire.
Et on termine par la NBA qui a repris ses droits cette nuit aux États-Unis.
Comme le veut la tradition, Golden State a donné le coup d'envoi de cette saison après avoir célébré une dernière fois son titre de champion NBA conquis en juin dernier. Stephen Curry et ses coéquipiers se sont fait peur, mais ils ont finalement pris le meilleur sur Oklahoma City, 108-100. Le premier match de la saison avait été remporté un peu plus tôt par Boston face à Philadelphie, 105-87.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie. Et on passe au dossier du jour. Des dizaines de milliers de Congolais ont récemment été expulsés de l'Angola. Parmi eux, des réfugiés et des migrants en situation régulière. Pour plus de détails, Eddy Issango a joint le porte-parole du HCR à Kinshasa, Andrea Kirchhoff.
Les autorités de l'Angola mènent une grande opération qui vise à expulser des gens qui considèrent des migrants de plusieurs nationalités. Il y a des personnes qui se sont rendues sous l'impression d'un ultimatum où on a été forcé de partir vers la RDC. Les chiffres, peut-être 200 000, c'est des estimations. Parmi eux, on a trouvé qu'il y a un petit nombre de personnes qui disent avoir été des réfugiés. Et nous, comme au commissariat des Nations pour les réfugiés, suit ces cas et se renseigne sur ces informations pour pouvoir faire un suivi. Mais en gros, l'opération ne cible pas les réfugiés. Ça, les autorités angolaises nous ont assuré. Les réfugiés qui ont fui le conflit du Kasaï en RDC et ont demandé l'asile en Angola.
Comment confirmez-vous que quelques-uns d'entre eux sont des réfugiés et quel est le nombre de réfugiés parmi eux?
Donc, en 2016-2017, il y a eu un conflit en RDC dans la région du Kasaï, qui est frontalière avec l'Angola. Plus de 30 000 personnes ont demandé l'asile en Angola. Ils se trouvent actuellement dans plusieurs endroits, entre autres à Lovua, en Angola. Et ces gens, ils détiennent des documents qui confirment leur statut de réfugiés, ce qui, normalement, selon le droit international, devrait empêcher qu'ils soient expulsés par l'Angola. On a quand même porté à notre connaissance 47 cas des personnes qui auraient été expulsées, des réfugiés avec ces 200 000 autres personnes. Et on suit cela, on va vérifier les documents, leur enregistrement et les circonstances de leur envoi en RDC.
Comment s'effectuent ces expulsions? Est-ce que c'est dans le respect des droits de l'homme?
Il y a eu aussi dans la presse angolaise beaucoup d'informations sur des actions violentes lors des expulsions. Les HCR n'étaient pas sur place, donc on n'est pas en mesure de vérifier ces informations, mais ça c'est certainement quelque chose de préoccupant, tel comme les récits des gens qui arrivent en RDC qui disent qu'ils ont été taxés avec le peu qu'ils possédaient encore. Et à cela s'ajoute aussi les conditions d'accueil très difficiles.
Les gouvernements angolais parlent de rapatriement volontaire. Comment expliquer que les réfugiés soient au nombre alors qu'ils sont supposés être dans des camps?
On ne sait pas exactement encore sous quelles circonstances ils ont été pris, mais on doit faire le suivi pour assurer que ces personnes aient la protection, ils aient aussi une solution. S'ils disent qu'ils veulent rentrer en Angola, c'est quelques réfugiés, on devrait voir quelles possibilités il y a pour leur donner la protection de l'Angola de nouveau.
C'était Andreas Kirchhoff, le porte-parole du HCR à Kinshasa.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et en République démocratique du Congo, la riposte contre l'épidémie d'Ebola continue. Depuis le 1er août, la maladie a déjà fait au moins 139 décès sur 217 cas signalés dans la région de Beni et en Ituri. C'est dans le nord-est du pays. Le défi majeur pour les équipes des experts sur le terrain reste l'insécurité dans cette région. Les équipes médicales sont obligées d'être escortées par l'armée et les casques bleus pour se déplacer. C'est un reportage de Charlie Kasereka, notre envoyé spécial à Beni.
Ici, par peur, certains villages ont été vidés par leurs occupants suite aux multiples attaques des ADF ou les Maï Maï. Difficile donc aux équipes de médecins ou des sensibilisateurs de traverser ces zones pour aller soit vacciner ou récupérer les cas suspects d'Ebola. L'autre défi, c'est des tensions sociales qui bloquent souvent les travaux des experts sur terrain. Dr Njolo Kotambwe-Baté, directeur de la riposte, explique sur VOA Afrique.
Chaque fois qu'il y a des affrontements dans la ville de Beni, le lendemain, les gens ne nous écoutent pas. Surtout s'il y a eu des morts, ils ne nous écoutent pas du tout. Il faut encore reprendre à zéro. Nous sommes toujours escortés. Cette semaine, au moins, ça a été la première semaine où on n'a pas eu de problème. Si nous arrivons à en avoir comme ça 2, 3, 4, 5 autres semaines, les gens font le travail qui a donné des résultats partout. Pourquoi ça ne va pas donner ici?
Sur terrain, l'armée congolaise et les casques bleus de la mission onusienne en RDC sont sur tous les fronts avec des défis énormes aussi, mais restez pessimistes. Les porte-parole de l'armée à Beni, l'officier Marc Kazukai.
Les FARDC se battent sur l'ADEF contre les Maï Maï. Il y a Ebola qui nous guette, qui nous inquiète, nous tous. Nous sommes obligés de dégrainer quelques militaires pour les mettre à la disposition des équipes de riposte.
Un soutien régional est donc plus que jamais important, souligne les maires de la ville de Beni, qui expliquent que les phénomènes ADF perdurent à cause des reliefs montagnés et une forêt dense autour de la ville de Beni. Nyoni Bwanakawa, maire de ville.
Ces actes renseignent très bien que le mode opératoire de l'ennemi, c'est le terrorisme. Et puis, à partir du moment où l'on sait que les EIDF, c'est une mosaïque de nationalités qui se cache dans la forêt, voilà là où nous avons toujours sollicité l'effort et l'intervention de la communauté internationale. Si aujourd'hui c'est Beniville qui paye les frais, demain ce sont tous les pays des Grands Lacs qui vont être embrasés par le phénomène EIDF.
Depuis 4 ans maintenant, l'armée fait face à ce qu'elle appelle une guerre asymétrique contre les ADF, créée à l'origine contre les présidents Ougandais Yoweri Museveni. Depuis, les membres de ce mouvement ont érigé leur base arrière dans la région de Beni. La société civile locale et l'ONU les accusent d'avoir tué au moins 800 civils et kidnappé d'autres. Plus de 2 mois maintenant, cette région est confrontée à l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Dans son bulletin quotidien, des informations liées à la riposte datées du 16 octobre, le ministère congolais de la Santé renseigne que 139 décès ont été enregistrés sur les 217 cas signalés avec plus de 17 000 personnes vaccinées en province du Nord Kivu et dans celle de l'Ituri voisine. Charlie Kasserec à VOA Afrique, Beni.
Morgan Guiriec en votre compagnie, cette semaine dans Washington Forum, gros plan sur les élections locales en Côte d'Ivoire. La coalition au pouvoir, le RHDP du président Alassane Ouattara, a remporté les locales et les municipales après sa rupture avec le PDCI de Conan de Bédier, désormais dans l'opposition. Les indépendants ont su tirer leur épingle du jeu en remportant plus de mérite que le PDCI. Que signifient ces résultats pour l'élection présidentielle de 2020 ? On en discute ce jeudi à 19h, temps universel.
Direction Dakar au Sénégal pour parler de transport et leurs coûts. Surtout pour ceux qui se rendent au nouvel aéroport à une cinquantaine de kilomètres de la capitale et jugent le prix de la course élevé. C'est un reportage de John Lyndon, notre envoyé spécial à Dakar.
Avec l'ouverture de l'aéroport international Blaise Diagne le 7 décembre 2017, le Sénégal s'est aussi doté d'une autoroute censée faciliter la circulation. Mais problème, les tarifs pratiqués par les taxis desservant cet aéroport sont très élevés. Babacar Mbaye, chauffeur de taxi.
Je viens de l'aéroport comme ça. Je passe souvent d'ici à l'aéroport de Dakar. Je passe souvent sur l'autoroute. Et les gens plaignent. C'est vrai. L'autoroute est chère. On paye trop cher même. Trop cher même. Parce que d'ici à Dakar, si c'est un taxi, l'aéroport à Dakar, si c'est tu prends un taxi, tu payes 20 000 francs.
20 000 francs CFA, une somme au-delà des bourses de la plupart des Sénégalais, surtout dans un contexte où dans plusieurs familles, accompagner un parent qui part en voyage est souvent un moment important. Babacar Mbaye.
Quand quelqu'un voyage, les gens vous accompagnent à l'aéroport. Pour l'accompagner une personne à l'aéroport, tu payes 20 000 aller. De retour aussi, tu payes 20 000. Tu es obligé parce que tu ne restes pas là-bas.
Il faut donc diminuer les prix, estiment certains, d'autant plus qu'il y a une autre préoccupation soulevée par les chauffeurs, la présence de 3 postes de péage sur un tronçon d'environ 50 km. Babacar Mbaye.
Et d'ici l'aéroport, tu payes 3 péages. 3 péages. Chaque péage, là, tu payes 1000 francs, 3500. Si tu travailles à Mbour, par exemple, tu travailles à Dakar ou vous habitez à Mbour, 50 km d'ici là-bas. Donc, aller-retour, tu payes 6000 francs, c'est trop.
Heureusement, il existe plusieurs autres options pour les moins nantis. Ainsi, la compagnie publique Dakar Demdik, qui dessert aussi bien les zones interurbaines qu'urbaines, a des prix compétitifs. 600 francs en moyenne entre l'aéroport et le centre-ville de Dakar. À l'intérieur de la ville, vous pouvez bien sûr compter sur les taxis ordinaires, mais surtout sur les célèbres cars rapides que vous pouvez emprunter avec 50, 100 ou 150 francs CFA. Et si vous êtes plutôt traditionnel, la calèche tirée par un cheval fera peut-être votre affaire. Mais quel que soit le moyen de transport que vous choisirez, la musique ne sera pas de trop. John Linden, Dakar, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
À l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, Médecins du Monde a publié le rapport annuel de son observatoire de l'accès aux droits et aux soins en France. Le constat est simple, selon l'ONG, les plus précaires sont aussi les plus mal soignés. Pour plus de détails, Clermont Ngibo rejoint le docteur Patrick Bouffard, médecin bénévole et membre de la veille sanitaire migrant à Médecins du Monde.
Cet observatoire existe depuis plusieurs années et ce qui nous a le plus choqué, c'est bien sûr qu'il y a une pérennisation des situations d'exclusion et de vulnérabilité, mais surtout on a un très très fort sentiment d'aggravation de la situation. Et c'est pour ça que d'ailleurs on a voulu faire de cet observatoire vraiment un objet politique, un objet d'interpellation politique, parce que les constats médicaux que nous faisons sont extrêmement inquiétants.
Dans ce rapport, on note aussi que 14% des patients sont des mineurs. Pourquoi ces patients viennent-ils vous voir ?
Souvent, ce sont des populations qui sont totalement marginalisées, qui n'ont pas pu avoir accès à l'ouverture à leurs droits de santé ou même l'accès aux structures de santé du droit commun.
Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que certains mineurs n'ont pas accès à la santé universelle en France ?
Alors c'est bien ça la problématique, c'est que souvent ces jeunes mineurs qui arrivent en France et qui, même parfois on pourrait d'ailleurs étendre la problématique à de très jeunes adultes, hein, je veux dire le problème est exactement le même. Malheureusement, les dispositifs du droit commun, ce qu'on appelle donc l'ASE, donc l'aide sociale à l'enfance, est totalement débordée. Hein, déjà, c'était des services qui, même en dehors de la crise de l'accueil migratoire, étaient déjà en forte tension, sont complètement débordés. Et nous, ce qui nous interpelle vraiment de manière très importante, c'est quand ces jeunes personnes arrivent en France, eh bien, elles sont confinées à la rue. Hein, le temps de s'orienter vers des structures, etc. Malheureusement, le droit commun n'est pas organisé pour les accueillir de manière digne. On en est vraiment là, c'est un problème de dignité d'accueil, parce que les structures du droit commun sont totalement débordées et saturées. Et c'est pour ça que je vous disais qu'il fallait que notre interpellation soit puissante par rapport à cet observatoire, parce que c'est vraiment une inquiétude politique générale. C'est-à-dire qu'il faut absolument que l'on décide de se mettre en ordre de bataille pour avoir un accueil digne des personnes. Je ne pense pas qu'on puisse parler de crise de la migration, mais je pense qu'en France actuellement, il faut parler de la crise de l'accueil des personnes. Et là, évidemment, le cas des mineurs isolés est totalement emblématique parce qu'on se retrouve à l'abandon d'enfants dans la rue. Je pense qu'il faut considérer qu'actuellement en France, il y a des enfants à la rue et que ça, c'est totalement inadmissible.
C'était le docteur Patrick Bouffard, médecin bénévole et membre de la veille sanitaire Micron à Médecins du Monde. Et c'est la fin de cette édition. Merci à Joselle Morissin qui était à la mise en onde. À la console, il y avait Sidrak Franklin. Présentation Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.